OK. Oui, super. Merci. Bien, bonjour à tous, les amis. On est content de se retrouver avec vous pour célébrer notre Dieu ce matin. C'est toujours une joie d'être dans le rassemblement des chrétiens pour nous tourner vers notre Dieu. Alors, je dois vous transmettre les salutations de Samuel Schott, que vous connaissez bien. Et je pense qu'il va être avec vous dans 3 semaines, c'est ça, nous a-t-il dit. Donc, soyez bénis avec lui, c'est un chouette frère. On a eu un bon moment de louange, d'adoration, et je remercie la petite équipe de louange là, qui se débrouille bien. C'est, vous savez nous accompagner dans le chant, vous ne remplacez pas le culte, mais vous accompagnez, vous nous aidez à tourner nos cœurs vers Dieu. Et je crois que c'est ça la raison d'être du groupe de louange, et je pense que vous le faites très bien. Et puisque nous parlons de louange aussi, d'adoration, bien, j'aimerais faire le lien avec le psaume 136 que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et je vous propose de faire une lecture alternative de ce psaume. Je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Je lis la première partie du verset et vous lisez la deuxième. Et je vous laisserai dire... « Car sa miséricorde dura toujours », parce que dans d'autres versions, vous pouvez trouver d'autres mots. Au lieu de « miséricorde », vous pouvez trouver « fidélité »,« amour », »,« bonté », »,« bienveillance ». Mais pour qu'on soit à l'unisson, c'est quand même mieux qu'on dise la même chose, au moins pour notre lecture. Alors, vous croyez pouvoir rester maintenant assis, parce que c'est le message, eh bien vous vous êtes trompé. On va se lever pour lire ce psaume, tous ensemble, et... Je rappelle que je lis la première partie du verset et vous lisez la deuxième. Ça va être assez simple parce que c'est toujours la même chose. Verset 1. Louez l'Éternel car il est bon à vous. Et dites-le avec conviction, mes amis, parce que je vais vous expliquer pourquoi il va falloir le lire avec conviction, n'est-ce pas ? Verset 2. Louez le Dieu des dieux. Voilà, amen. Louez le Seigneur des Seigneurs, celui qui seul fait de grands prodiges, celui qui a fait les cieux avec intelligence, celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Il fit sortir Israël du milieu d'eux. À main forte et à bras étendus. Celui qui coupa en deux la mer rouge. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Celui qui frappa de grands rois. Qui tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens. Et Og, roi de Basan. Et donna leur pays en héritage. En héritage à Israël son serviteur. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Et nous délivra de nos oppresseurs. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux. Jusqu'ici, la parole de Dieu, et vous pouvez vous rasseoir. Merci. Il y a de fortes chances pour que ce psaume ait un caractère liturgique et était destiné certainement au culte public. Le chef des chœurs ou du chœur des Lévites récitait le psaume et l'assemblée ou le chœur même répondait par le refrain « Car sa miséricorde dure à toujours ». Les exégètes pensent que ce psaume, et à juste titre, a été composé au moment du retour de la déportation. Et c'est important pour Israël parce que au retour de la déportation, des questions existentielles et essentielles se posaient au peuple d'Israël. Est-ce que nous sommes toujours le peuple de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la rébellion? Puis maintenant qu'il n'y a plus de temple, comment est-ce qu'on va faire pour adorer? Est-ce que les promesses de Dieu sont toujours valables pour nous? Etc, etc. Et ce psaume va donc être une réponse adaptée à tout ce questionnement pour le peuple de Dieu de l'époque et aussi un enseignement pour chacun d'entre nous. Alors, j'aimerais faire pour ce psaume 3 commentaires et 4 applications. Le premier commentaire, ça ne vous a pas échappé, c'est que nous avons vraiment des répétitions qui sont significatives. On va voir pourquoi. Et si vous n'avez pas été trop attentif à la lecture de ce psaume, il y a au moins une chose qui ne vous a pas échappé. C'est quoi? Car sa miséricorde durera toujours, n'est-ce pas? Ça, ce n'était pas possible de passer à côté de ça. À 26 reprises, dans 26 versets, vous avez cette même phrase qui revient apparemment rébarbative et apparemment même déplacée. On ne comprend pas pourquoi elle se trouve là, mais qui revient comme pour marteler une vérité toute simple mais essentielle. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Alors maintenant, si vous voulez enfoncer un clou dans du bois dur, ben vous n'avez pas intérêt à prendre le marteau et puis taper un grand coup, blam, parce que vous le mettez à genoux tout de suite, le clou. Non, ce qu'il faut faire, c'est taper par petits coups, voilà, suffisamment longtemps pour que le clou arrive à s'enfoncer gentiment. Sinon, ça ne marchera pas. Et mes amis, je crois que nos cœurs, quelque part, sont peut-être plus durs que le bois le plus dur existant. Et le Saint-Esprit a voulu que nous soyons exposés encore et encore à une vérité toute simple, mais qui revient à répétition. C'est que la miséricorde de Dieu durera toujours. Et certainement que l'apôtre Paul connaissait ce principe, parce que lui-même dira, n'est-ce pas, dans Philippiens chapitre 3, verset 1, « Je ne me lasse pas de vous écrire la même chose, parce que pour vous, cela est salutaire. » Alors j'ouvre juste ici une petite parenthèse. Parfois, vous savez, surtout pour les chrétiens de longue date, on connaît notre Bible, moi ça fait plus de 40 ans que je la lis, puis des moments on peut se dire, mais je connais, on connaît les histoires, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de surprise, etc. Oui, mais ne nous lassons pas de la lire. Ne nous lassons pas de rester au contact avec la vérité, avec tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, digne de louange. Parce qu'en nous exposant à la vérité, cette vérité change et transforme nos pensées et commence à pénétrer dans nos cœurs. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Seigneur Jésus, vous connaîtrez, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, ça en fait partie. Restons sous la parole de Dieu, mes amis. Je vous suggère deux autres raisons pour lesquelles ces répétitions sont significatives. Alors bien sûr, on peut invoquer un procédé littéraire. Et c'est vrai de la part du psalmiste, c'est une méthode que les Hébreux employaient en l'occurrence, cette figure de rhétorique, c'est-à-dire cette manière de répéter aussi encore toujours la même vérité, ce procédé littéraire est abondamment employé dans les Écritures. Mais au-delà de ces explications, et parce que le Saint-Esprit est l'auteur véritable du psaume, eh bien, nous pouvons dire que ce que nous voyons, c'est qu'il y a le fardeau de Dieu. C'est Dieu a un fardeau à communiquer à son peuple et peut-être qu'il a du mal, entre guillemets, à nous communiquer ce qui est essentiel sur son cœur. Pour sa créature, il a un message à lui donner. Sa miséricorde dure à toujours. Et j'aimerais mentionner encore une deuxième explication à ces 26 répétitions. Est-ce que vous vous souvenez dans Genèse chapitre 41 comment Joseph va dire à Pharaon concernant les deux rêves qu'il a eus en relation avec la période de 7 années d'abondance qui vont être suivies par 7 années de disette? Je vous cite le verset, Genèse 41, verset 32, « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Alors, si une chose est répétée deux fois de la part de Dieu, elle est arrêtée de sa part, elle est certaine, elle est scellée, elle est définitive. Qu'en sera-t-il d'une chose qui est répétée 26 fois ? A fortiori, mes amis, elle est scellée, elle est sûre, elle est certaine. On peut s'appuyer sur cette promesse. La miséricorde de Dieu dure à toujours. La deuxième explication que nous pouvons voir, c'est vraiment l'engagement de Dieu, cet engagement irrévocable quant à sa miséricorde qui dure à toujours. Et nous pouvons dire d'emblée que tous les versets de ce psaume, sans exception, possèdent comme le sceau du fardeau et de l'engagement irrévocable de Dieu quant à son désir de faire miséricorde à son peuple, pour que nous aussi, nous puissions y trouver un puissant encouragement. Deuxième commentaire sur ce psaume. Un message de la plus haute importance. Pourquoi ce message de la miséricorde de notre Dieu qui durera toujours est tellement important hier comme aujourd'hui? S'il y a une chose que le diable cherche à faire, c'est bien remettre en question la bonté de Dieu. Je pense que vous êtes d'accord, ça a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? L'ennemi insuffle un doute quant à la bonté de Dieu, n'est-ce pas ? Mais on peut dire aussi que Dieu a quand même prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La venue de Jésus-Christ sur la terre est la preuve manifeste que oui, la bonté de Dieu, elle est réelle. Maintenant, il nous faut remarquer que ce message sur la miséricorde de Dieu qui durera toujours a traversé les âges, mais elle a un spectre extrêmement large. Parce que le mot qui est traduit par « miséricorde », que j'ai lu ici dans la version de Second 1979, c'est le mot hébreu « chesed ». Et en fait, ce mot, il échappe à toute traduction, parce qu'il ne peut pas être traduit par un ou deux mots. Il a un champ sémantique, c'est-à-dire différents sens, et différents sens extrêmement nombreux. Ce mot « chesed » recouvre de nombreux et précieux attributs de Dieu. Il apparaît 245 fois dans l'Ancien Testament. Et il possède trois significations de base que je vous liste. La première, c'est la force, la ténacité, la fermeté. Dieu est puissant. La deuxième, c'est la constance, la patience, l'attachement, la fidélité, la loyauté. Dieu persévère jusqu'au bout. Et la troisième, c'est l'amour qui inclut l'affection, la bonté, la bienveillance, la compassion, la grâce, la miséricorde. Dieu est amour. Est-ce que vous voyez tous les sens que recouvre ce mot « chesed » ? Ce qui explique que les traducteurs de la Bible ont traduit de manière diverse ce mot. Ainsi, nous pouvons dire que la miséricorde de Dieu qui durera toujours, c'est l'amour ferme, fidèle, loyal, patient, constant de Dieu qui s'exprime dans sa miséricorde, sa bienveillance, sa compassion et sa grâce envers tous les hommes. Il faudrait dire tout ça quand on parle de ce mot-là. Et quand le peuple juif parlait de la recette de Dieu, ils savaient qu'ils avaient tout dit sur Dieu. Il y a quatre conséquences au fait que la miséricorde de notre Dieu durera toujours. La première conséquence, c'est que Dieu nous assure de son pardon. Parce que la miséricorde de Dieu durera toujours, le peuple de Dieu d'hier et aujourd'hui peut avoir l'assurance que Dieu pardonne toujours quand il est invoqué sincèrement. David écrira au psaume 86, verset 5, « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Peut-être parmi nous, il y en a qui ne sont pas sûrs d'avoir reçu le pardon de Dieu. Et je voudrais encourager, mes amis, celui ou celle qui est concerné, de s'assurer qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est réconcilié avec Dieu et que Dieu le pardonne s'il s'approche de lui par Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas au clair sur ce sujet, il y a des anciens dans l'Assemblée, allez les voir, allez parler avec eux. Sous l'Ancienne Alliance, pour certains péchés, vous savez qu'aucun sacrifice n'était prévu. Vous avez le cas, par exemple, du meurtre ou de l'adultère. Et David a été concerné par les deux, avec Bathsheba, rappelez-vous. adultère avec Bathsheba, il fait tuer son mari, Uri, au combat. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand vous lisez le psaume 51, qu'est-ce que dit David ? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Aie pitié de moi selon dans ta bonté, dans ta chesed. David fait appel à la miséricorde, à la chesed de Dieu, en marge de la loi, et indépendamment de ce qu'il a fait. Et ce que David nous montre, nous le retrouvons dans la Nouvelle Alliance avec cette merveilleuse promesse que nous avons dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Oui, la miséricorde de Dieu nous assure son pardon indépendamment de nos fautes et de ce que nous avons fait, à condition que nous confessions sincèrement et de tout notre cœur nos fautes et nos péchés. La deuxième conséquence du fait que la miséricorde de Dieu durera toujours, c'est que Dieu travaille à changer le mal en bien. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions, mes amis, interpréter tout ce qui se passe dans nos vies et tout ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera dans le grand contexte de la miséricorde de Dieu. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament illustre bien ce principe. Souvenez-vous, après toutes ces péripéties et tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, quand il s'est révélé à ses frères, après tant d'années d'épreuves, dans Genèse chapitre 50, verset 20, je vous cite, voici ce qu'il dira à ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et je crois que, mes amis, il en est de même pour nous aujourd'hui. Dieu travaillera à changer le mal en bien si nous persévérons à croire en sa bonté et en sa miséricorde qui dure à toujours. Et je ne sais pas pour vous, mes amis, mais avec du recul, je vois combien Dieu a été miséricordieux envers moi et combien Dieu a utilisé dans ma vie les périodes les plus pénibles que j'ai connues pour me changer, me transformer et pour m'apprendre l'humilité dont j'avais besoin pour apprendre maintenant à travailler avec ceux qui ne pensent pas forcément de la même manière que moi. Dieu travaille dans nos vies pour nous changer. Nous pouvons le bénir pour cela. Mais faisons-lui confiance et appuyons-nous sur sa miséricorde qui dure à toujours. La troisième conséquence du fait que la miséricorde de Dieu durera toujours, c'est que nous pouvons retrouver l'espérance dans les moments d'épreuve. L'an dernier, j'ai téléphoné à un frère qui avait un cancer de la moelle osseuse. Il voyait tout en noir, il était déprimé. Je l'ai laissé parler. Et après un petit moment de conversation, je lui ai dit « Écoute, Georges, tu as le droit d'espérer en ton Dieu. Tu as le droit parce que tu es un enfant de Dieu et parce que le Seigneur est absolument au contrôle de ce qu'il permet dans ta vie. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. » Et je lui ai dit « Georges, on va prier. » Alors j'ai prié et j'ai prié seul et j'entendais Georges qui pleurait à l'autre bout du fil. Et une fois que j'ai prié, Georges m'a dit « ça fait du bien ». Qu'est-ce qui fait du bien, mes amis ? Ce qui fait du bien, c'est de pouvoir s'appuyer dans les temps d'épreuve sur la miséricorde de Dieu qui dure à toujours. C'est ça qui fait du bien. Nous pouvons, oui, nous fortifier et prendre courage, comme Guy l'a rappelé ce matin, parce que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Nous avons un fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer. Notre Dieu reste le rocher des siècles. Il s'est engagé à exercer envers ses créatures une miséricorde incroyable, et en particulier pour ses enfants. Parce que notre Dieu est le sauveur de tous les hommes, et principalement des croyants. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent, pas toutes les semaines, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Et les bontés de l'Éternel, c'est encore pas n'importe quel mot, les résèdes de l'Éternel. Et tout ce que je vous ai dit sur ce mot résède, mettez-le ici. Les bontés de l'Éternel, l'amour ferme, fort, fidèle, etc., loyal de Dieu, ça se renouvelle chaque matin. Chaque matin, je peux venir au trône de la grâce et dire, Seigneur, merci, tu es avec moi. Merci, tu ne vas pas m'abandonner. Merci, tu vas me secourir. Quatrième conséquence du fait que la miséricorde de notre Dieu dure à toujours. c'est que Dieu désarme notre dureté de cœur et nous enseigne l'humilité. Et ça, c'est important. Si Dieu le voulait, il le pourrait, il prendrait une grosse ou une petite seringue et il nous ferait une piqûre d'humilité. Ça y est, il est humble celui-là. Mais si Dieu faisait ça, nous ne serions plus des hommes, nous serions des robots. Dieu ne fait pas ça avec nous, mes amis. Et puis, je vais dire, on voit bien que vous qui travaillez dans le monde de l'entreprise, si vous avez un patron qui est un petit peu dur avec vous, qui insiste, qui vous oblige à faire des choses, bon, les collaborateurs le feront en grinçant les dents, mais ça n'ira pas bien. À un moment ou à un autre, ça ne se passera pas bien. Ce n'est pas la bonne méthode. Dieu désarme notre orgueil par un autre moyen, par sa miséricorde. Vous vous souvenez l'épisode, tout ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Le trompeur, le supplanteur, il voulait arriver à ses fins par tous les moyens, par la ruse. Il y est arrivé d'une certaine manière, mais finalement il y avait vraiment de l'orgueil derrière. Mais Dieu l'a mis à une rude école. Il a passé 20 ans au service de son oncle Laban, qui était peut-être un peu plus rusé que lui, en tout cas pendant un certain temps. Et au bout de 20 ans, quand Dieu a dit à Jacob, retourne dans le pays de ta naissance. Dieu a parlé à Jacob. Et là, écoutez ce que Dieu va dire, Jacob va dire dans Genèse chapitre 32, verset 10. Il va dire à Dieu, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Je suis trop petit pour toutes les aides de Dieu, n'est-ce pas ? Trop petit pour ça. Si Jacob a appris quelque chose, a été désarmé de son orgueil quelque part, eh bien, c'est par la résède de Dieu. Dieu lui a enseigné l'humilité au travers de ces 20 années qui ont été difficiles, mais c'est au travers de la miséricorde de Dieu qu'il a compris ces choses-là. Je suis moi-même un peu sévère, facilement, avec ceux qui ne font pas attention. Même si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et alors, le Seigneur m'a donné une leçon il y a 15 jours, maintenant, que je vais vous raconter. J'étais dans le TGV pour animer le CA de la CIM à Montbéliard, et j'avais ma valise dans le rack, et puis ma sacoche avec mon ordi, portefeuille, etc. J'avais tout. J'arrive à Montbéliard, ça se pressait un petit peu dans les couloirs, je prends l'encens, je mets ma sacoche sur le siège vide à côté, je prends la valise, je descends vite, voilà, je vais retrouver le directeur Jean Salmeron pour m'emmène en voiture, et au bout de 10 minutes, je dis « la sacoche ». « La sacoche !» Avec l'ordi, celui-là, je vais vous expliquer après, les papiers, tout, la totale. Et franchement, j'étais pas bien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? 10 minutes après, dans la voiture, je reçois un coup de fil du contrôleur. Monsieur Galland, vous n'auriez pas oublié votre sacoche? Oui, j'ai oublié la sacoche. Comment est-ce que je peux faire pour la récupérer? Il dit, écoutez, prochaine gare, il faut que vous descendiez à Mulhouse, vous alliez à Mulhouse, et je peux éventuellement essayer de la laisser à un bureau pour que vous puissiez récupérer votre sacoche. C'est quelqu'un qui est monté à Montbéliard, qui a vu cette sacoche et qui s'est adressé à moi et qui me l'a donnée. Bon, Jean Salmeron, mon directeur, me dit, écoute, ni une ni deux, il faut foncer, il faut qu'on aille récupérer ta sacoche, demain la journée est pleine, on n'aura pas le temps, il faut y aller. On y va, je vous la fais courte, merci Seigneur, je récupère ma sacoche. Mon point, c'est pas celui-là. Parce que vous avez tous oublié des choses à droite et à gauche. Mais le soir, je prie, vraiment je remercie Dieu, comme pas possible avec une affaire comme ça. Et je me suis dit, mais finalement, il y a eu une sacrée délégation d'anges pour que je puisse retrouver cette sacoche dans un tel contexte. La bonne personne qui est montée à Montbéliard était suffisamment honnête pour aller voir le contrôleur. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Le contrôleur lui-même était honnête et intègre. Ce n'est pas toujours le cas, mes amis, dans notre bas monde, n'est-ce pas ? Il a eu, encore heureux, qu'il a trouvé une carte de visite que je n'avais plus dans le portefeuille, mais que j'avais dans mon sac. Encore heureux que mon téléphone n'avait pas été mis dans le sac, sinon il n'aurait pas pu m'appeler. Encore heureux que le monsieur au bureau de Mulhouse, auquel on a remis la sacoche, lui-même était suffisamment intègre et droit pour garder la sacoche et pour ne pas piquer le liquide qu'il y avait, entre autres, ou la carte. J'en sais rien, en disant, bah écoutez, monsieur, c'est perdu, c'est perdu. Ça fait quand même beaucoup de choses, tout ça. Et en priant, j'ai dit, Seigneur, finalement, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de tout ça? Parce que c'est quoi la leçon? C'est quoi la leçon? Eh bien, la leçon, elle était très claire pour moi. C'est comme si le Seigneur me disait, maintenant, Franz, il faut que tu sois un petit peu plus cool avec ceux qui ne font pas attention. Un petit peu plus cool, maintenant. Sois plus gentil. C'était une grande leçon, mes amis. Je ne vous le cache pas dans mon cœur. C'était une grande leçon. Et je vois comment, finalement, c'est vraiment la bonté et la miséricorde de Dieu là, qui m'a enseigné. Les choses auraient pu se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. Elles se sont bien passées, mais c'est la grâce de Dieu et je la prends comme une leçon venant de sa part. Dieu désarme, mes amis, notre dureté de cœur et nous enseigne l'humilité par sa miséricorde. Alors, résumons les quatre conséquences du fait que la miséricorde de notre Dieu durera toujours. Nous pouvons avoir l'assurance du pardon de Dieu. Nous pouvons avoir l'assurance qu'il travaille à changer le mal en bien. Nous pouvons retrouver l'espérance et Dieu et avoir l'assurance que Dieu change, nous change en nous enseignant l'humilité. Je voudrais passer au troisième commentaire. Le cœur de notre Dieu est révélé dans ce psaume. Regardez comment ce psaume démontre qu'à la miséricorde de Dieu, sa chesed est au centre de tout ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que à chaque fois, vous avez ce petit quart qui précède, sa miséricorde durera toujours, qui introduit une raison et une explication. La miséricorde de Dieu, c'est la raison d'être de la création, des cieux, de la terre, des astres, etc. Mais c'est aussi la raison de l'histoire du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à son introduction dans le pays de la promesse. Avec la raison de la délivrance du peuple, versets 10 à 15, la raison de sa protection, la raison des jugements de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. La raison de ses interventions et la raison de sa générosité, verset 25. Ce psaume nous révèle donc que non seulement tout ce que Dieu fait est motivé par sa miséricorde et par sa chesed, mais en plus, il n'y a rien que Dieu n'entreprenne sur la terre et dans le ciel sans que sa miséricorde en soit la raison. Oui, ce psaume est là pour nous attester cela. Et c'est assez incroyable. Si vous réfléchissez à notre monde aujourd'hui et que vous dites ça, il n'y a rien que Dieu entreprenne sur la terre et dans le ciel sans que sa miséricorde soit en raison, en soit la raison, ça nécessite réflexion. Nous pouvons comprendre assez facilement ce que je viens de dire en relation avec la création, en relation avec la délivrance, les interventions de Dieu, etc., etc. Maintenant, quand vous arrivez au verset 10, où il est question que celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Là, vous dites, il y a un hic. Il s'est trompé, là, le psaume. Non, il ne s'est pas trompé, mes amis. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'aimerais vous suggérer deux éléments de réflexion dans le contexte de l'Égypte, puisque c'est de ceci dont il s'agit dans notre psaume. Les jugements de Dieu empêchent que le mal et le mensonge s'étendent. Par exemple, Pharaon et les Égyptiens, à l'époque, se considéraient comme la nation la plus puissante, n'est-ce pas, de toute la terre, avec leur Dieu. Mais quand les plaies se sont succédées les unes derrière les autres, l'incapacité de leur Dieu de les délivrer a été mise en évidence. C'était des faux dieux. Le jugement de Dieu est un peu quand même comme un acte chirurgical. Ça fait mal d'abord. Il faut couper, il faut ouvrir, il faut retirer, voire amputer ce qui est malade ou infecté, n'est-ce pas? Il faut peut-être faire mourir une partie du corps. Oui, mais pour que le reste du corps puisse vivre. L'acte chirurgical fait mal, mais ça reste un acte de bonté. Je vous suggère une chose, mes amis. Combien de fois Dieu permet-il un mal dans nos vies afin qu'un plus grand mal ne se produise pas sur nos vies. Maintenant, on ne sait pas tout, on le verra dans l'éternité. Mais réfléchissez à ça. Ayons ce réflexe de dire, oui, c'est vrai, c'est une tuile, mais peut-être que c'est pour me préserver de quelque chose qui aurait été encore pire pour ma vie. Ensuite, une autre raison, c'est que la miséricorde de Dieu est aussi visible dans un contexte de jugement, parce que nous voyons que Dieu manifeste sa lenteur à la colère. On voit que Dieu n'est pas prompt à s'enflammer et à juger, boum, il envoie le jugement. Non, c'est pas ça qu'il fait. On voit que les plaies sont successives, les unes derrière les autres. En plus, Dieu avertit Pharaon par la bouche de Moïse et d'Aaron, n'est-ce pas ? Attention, l'autre plaie vient. Et puis, on voit que le niveau d'intensité des plaies augmente. Tout ça fait partie de la pédagogie de Dieu, c'est le mégaphone de Dieu, n'est-ce pas ? Et puis, nous voyons aussi que le jugement n'englobe pas tout le monde de manière aveugle pour certaines plaies, en tout cas pour celles dans Exode chapitre 9, verset 20, où nous lisons en relation avec la grêle, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent rentrer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Ils ont été épargnés. Ils avaient la possibilité d'obéir à la parole de Dieu et de se soumettre au Dieu vivant et vrai. Et puis rappelons aussi que tout le peuple d'Égypte n'a pas été englouti dans la mer, n'est-ce pas ? C'est quand même l'armée d'élite de Pharaon, avec Pharaon, qui ont été engloutis. Si toute la ville de Jéricho était sous jugement de Dieu, Rahab, vous le savez bien, a été épargnée parce qu'elle a cru à la parole de Dieu. L'Écriture nous atteste abondamment, mes amis, que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Assurément, ce psaume est là pour nous attester que les jugements de Dieu sont inclus dans sa miséricorde. Parce que l'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Qui sommes-nous, mes amis, pour dire que nous sommes exclus de la bonté et de la miséricorde de Dieu ? Personne ne peut le dire. Personne. Pas nous et même pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous pouvons leur dire, Dieu est miséricordieux, approche-toi du Seigneur, demande-lui ta grâce, demande-lui grâce, il le fera. Alors, maintenant, j'aimerais passer à 4 applications pour nous. La première application, c'est que je ne suis ni meilleur, ni plus malin que les autres. J'ai moi aussi besoin de la miséricorde, de la grâce de Dieu, de la recette de Dieu chaque jour dans ma vie. Et pour nous souvenir, mes amis, que qui nous sommes et qui est notre Dieu, nous devons cultiver de manière intentionnelle et quotidienne cette reconnaissance et avoir le désir de nous approcher de Dieu chaque jour, de faire comme les patriarches qui construisaient un autel pour s'approcher de Dieu, pour exprimer leur reconnaissance et leur adoration. Nous devrions ménager des temps chaque jour sérieux pour avoir communion avec notre Dieu. Souvenez-vous bien sûr de ce que faisait Daniel 3 fois par jour. Il était dans sa chambre et il louait, il bénissait son Dieu comme il le faisait auparavant. La deuxième application que j'aimerais souligner, c'est parce que la miséricorde de Dieu durera toujours, nous ne devrions jamais désespérer, mes amis, jamais. Jamais spécialement quand nous sommes confrontés à notre propre péché, mais aussi au péché des autres, chrétiens ou non chrétiens. Et surtout quand ils moissonnent ce qu'ils ont semé. On a parlé de David. Il aurait pu désespérer, lui, meurtrier, adultère. Non, il s'est appuyé sur la recette de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Et il a obtenu miséricorde, nous le savons. Je pense aussi à un autre exemple, assez fort, dans l'Ancien Testament, qui est le cas de Manassé. Ce mauvais roi, n'est-ce pas, sous Israël. Dans 2 Rois, chapitre 21, 11, je vous cite, nous lisons que Manassé, roi de Juda, a commis des abominations parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens. Alors les Assyriens se saisirent de Manassé, ils l'ont mis dans les chaînes, dans les fers, et ils l'ont emmené à Babylone. Mais nous lisons verset 12, je vous cite, lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères, lui adressant ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem, dans son royaume. et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Mes amis, pourquoi est-ce que l'Éternel s'est laissé fléchir? Mais parce que sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Et il aurait pu lui dire, écoute, c'est fini, top, tu restes, voilà, tu moissonnes tout ce que tu as semé pendant toute ta vie. Non, sa miséricorde durera toujours. Rappelez-vous les criminels qui ont été crucifiés à droite et à gauche du Seigneur Jésus avaient bien des raisons aussi de désespérer. Mais l'un d'entre eux s'est tourné vers le Seigneur et lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que la miséricorde de Dieu durera toujours. Elle est disponible au moment où une âme se tourne vers le Seigneur et dit, Seigneur, prends-moi tel que je suis. J'ai besoin de ta grâce. Ça, c'est formidable, mes amis. Quel message! Incroyable! Cette recette de Dieu est disponible en tout temps, même au sein des situations les plus dramatiques que nous pouvons connaître ou que d'autres peuvent connaître. Et puis, Pierre avait de quoi désespérer. Ah, il avait l'assurance de ne pas renier son maître. « Tous te renieront, mais pas moi !» avait-il clamé haut et fort. Oui, mais quand le test vient, eh bien notre Pierre, il renie effectivement le Seigneur bel et bien. Vous voyez comment, dans Jean 21, le Seigneur Jésus le restaure en lui posant à trois reprises cette petite question. « Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Belle question. » Et nous voyons que le Seigneur Jésus restaure Pierre dans son ministère. « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus restaure Pierre de cette manière ? Alors qu'il l'a renié, n'est-ce pas, lamentablement, mais parce que la miséricorde de Dieu durera toujours. Vous voyez cette miséricorde qui durera toujours, cet amour ferme, fidèle, patient, constant du Seigneur, nous prouve que Dieu n'est jamais, notre Dieu n'est jamais dépourvu face à nos péchés, mais au contraire, il les confronte et il nous enseigne et il nous restaure en nous donnant l'espérance dont nous avons besoin. Je crois que la grande leçon, mes amis, de cela, c'est qu'aucune situation ne peut basculer au-delà de l'atteinte de la miséricorde de notre Dieu. Avec notre Dieu, il y a toujours espoir parce que Jésus est ressuscité et vivant. Troisième application. Parce que la miséricorde de Dieu durera toujours, alors nous devrions toujours, sans cesse, tourner nos yeux vers l'Éternel. David écrira dans le psaume 25, verset 15, « Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Et mes amis, on a aussi, nous, en tant que chrétiens, pas mal de filets. On est confrontés à pas mal de filets et de pièges. Le filet du monde, du péché, de la chair, du diable, de l'ennemi, de ses ruses, etc., etc. Oui, mais tournons constamment nos yeux vers l'Éternel. Tournons-nous vers lui, même dans nos cœurs, simplement. Quand nous sommes dans la rue, des affiches, des trucs qui viennent, voilà, qui viennent alimenter des mauvaises pensées, toutes sortes de tentations. Aucune tentation n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle, qui vous est survenu n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, n'est-ce pas? Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir. Hein? Quel est ce moyen? Eh bien, ce moyen, c'est de nous appuyer, entre autres, sur la miséricorde de Dieu. Dieu a toujours, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Quatrième et dernière application. Parce que la miséricorde de l'Éternel durera toujours pour nous, nous devrions, nous aussi, être miséricordieux, comme notre Seigneur a été miséricordieux avec nous. Soyons des porteurs d'espérance, mes amis. Des porteurs de la recette de Dieu pour les autres. Je reprends cet exemple et cet épisode de Joseph dans l'Ancien Testament. Nous voyons comment il a fait confiance à Dieu dans des temps difficiles. Et quand il s'est retrouvé en prison à plusieurs reprises... Oups, non, c'est bon. À plusieurs reprises... C'est toi qui as fait ça, Guy? À plusieurs reprises, nous voyons que Joseph se retrouvait dans des situations vraiment dramatiques, mais il y a quelque chose qui est intéressant, à répétition, je ne sais pas si vous en souvenez, si vous avez le texte un petit peu en tête, il nous est dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. À plusieurs reprises, ça nous est dit. Il étendit sur lui sa chesed. Tiens, intéressant. Il est bénéficiaire de la chesed alors qu'il se retrouve en prison, alors qu'il est accusé par la femme de Potiphar, patati patata. La chesed de Dieu était sur Joseph. Mais ce que nous voyons, c'est que Joseph n'a pas gardé cette chesed pour lui. Il a été le canal par lequel il a transmis cette bonté, cette miséricorde de Dieu à ceux qui étaient à son contact et en particulier à ses frères. Vous vous souvenez ce qu'il a dit ensuite à ses frères, je ne reviens pas sur la chose, mais c'est clair qu'il leur fait miséricorde. Il leur fait grâce, il leur dit, mais non, mais je ne veux pas vous faire de mal. Restez avec moi, vous serez sous la protection, sous ma protection ici dans le pays d'Égypte. Et je crois que, n'est-ce pas, je vais dire cet enseignement que le Seigneur Jésus aussi nous donne dans Luc chapitre 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyons si miséricordieux avec les autres comme le Seigneur l'est avec nous-mêmes. Rendons aux autres ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Conclusion. Lors de l'incarnation du Seigneur Jésus, lorsque la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, nous dit l'évangéliste Jean, c'est aussi la recette de Dieu qui est venue jusqu'à nous. Et parce que ce sont les entrailles de la miséricorde de Dieu qui nous ont été envoyées par Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus meurt à la croix du calvaire, expie nos péchés, ressuscite d'entre les morts, eh bien ce sont les torrents, le fleuve de la recette de Dieu, de son amour fidèle, ferme, loyal, patient et constant qui devient disponible pour tous ceux qui croient. Désormais, tous ceux qui sont en Christ et qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont a fortiori au bénéfice de la miséricorde, de la chesed de l'Éternel. Alors, c'est pourquoi est-ce que je vais choisir de répondre à l'invitation du psalmiste, verset 1. Louez l'Éternel! Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde, sa chesed, dure à toujours. Est-ce que je vais choisir de ne pas désespérer dans les épreuves, parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance, et parce que notre Dieu est au contrôle de tout ce qu'il permet dans chacune de nos vies et dans la vie de nos concitoyens? Est-ce que je vais choisir de me tourner vers le Seigneur en tout temps, indépendamment de ce qui se passe, et lui faire confiance? Est-ce que je vais choisir d'interpréter aussi les événements de ma vie dans le contexte de sa miséricorde? Non, ce qui m'arrive, ce n'est pas parce que Dieu m'en veut ou Dieu me punit. Non, Dieu m'aime. Dieu sait ce qu'il fait. Je vais lui faire confiance. Et enfin, est-ce que je vais choisir d'être miséricordieux et indulgent envers les autres comme l'Éternel l'a été avec moi et l'est avec chacun d'entre nous? Alors oui, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À toujours, oui, mais sur la terre. Sur la terre, parce qu'au-delà, ça sera le moment du jugement. Mais sur la terre, nous pouvons expérimenter et apprendre à vivre que oui, sa miséricorde dure à toujours. Prions, mes amis. Levons-nous pour prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grâce et de ta miséricorde qui est venue jusqu'à nous. Nous te tournions le dos, nous ne voulions pas te connaître, tu es venu jusqu'à nous, tu nous as rencontrés, tu nous as fait grâce. Et maintenant, Seigneur, tu as changé nos vies, mais nous voulons apprendre à vivre en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Et en comptant sans cesse sur ta miséricorde, sur cette merveilleuse chesed que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Nous te louons de ce que nous avons un appui ferme et solide. Merci de ce que nous pouvons apprendre à te faire confiance jour après jour. Apprends-nous à te faire confiance, notre Dieu. Tu ne changes pas. Et Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sois adoré et béni. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir. Merci pour votre écoute, mes amis.